Aujourd'hui, dans la grande table des idées, à un mois et demi des midterms, assiste-t-on à la fin d'un cycle politique? L'heure de la revanche démocrate a-t-elle sonné? Un bilan de santé de la République américaine aujourd'hui avec Dick Howard, philosophe, professeur émérite de l'Université de New York, intellectuel démocrate engagé pour les droits civiques dans les années 60. Il y a 10 ans, il partait aux origines de la pensée américaine. Dans son nouvel essai « Les ombres de l'Amérique » qui paraît aux éditions François Bourin, il se demande pourquoi les élites intellectuelles n'ont rien vu venir, quelles contradictions le phénomène Trump cristallise-t-il? Quel clivage américain s'est traduit dans les urnes ce jour-là? Un retour sur une élection historique, à quelques semaines d'un scrutin de mi-mandat. La popularité du président républicain est-elle intacte? Le best-seller Fear du journaliste américain Bob Woodward, qui décrit Trump en fou, et celui de la tribune d'un anonyme de l'administration d'un résistant de l'intérieur, dénonçant les actes d'un président dépourvu de moralité, je cite, auront-ils un impact sur ces élections? Dick Howard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous prenez déjà des notes et nous aussi. Une réflexion politique, ce livre, cet essai, doublé d'un exercice d'introspection dans les ombres de l'Amérique, alimenté par, écrivez-vous, la culpabilité que peut éprouver le citoyen d'une démocratie qui semble filer vers l'abîme. L'abîme. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Est-ce que vous n'êtes pas encore peut-être en train de faire fausse route? Beaucoup d'Américains pensent aujourd'hui que les États-Unis ne vont pas dans la mauvaise direction avec Donald Trump.
Beaucoup. Il y a toujours un tiers, 40% même des électeurs dans une démocratie qui sont d'opinions différentes, qui sont pris dans cette course à la vitesse de la mondialisation qui semble les laisser en arrière. Je vous ai écouté hier quand vous parliez de Virilio et justement la vitesse et comment ça transforme notre perspective. Mais ce qui me surprend. Vous citez mon précédent livre « Aux origines de la pensée politique américaine ». Et effectivement, qu'est-ce qui a changé? Quand j'ai été ici à Radio France, la soirée électorale, quant à la surprise de tout le monde, Donald Trump a été élu. Et quelle était ma réaction? D'abord, j'avais l'impression que les institutions dont j'ai décrit les origines dans ce précédent livre allaient tenir. Et, bon, je suivais les affaires, mais pas de sens de panique, etc., etc. Ce n'était que au mois d'août de l'année passée à Charlottesville que ce sentiment de honte s'est saisi de moi. Et ça s'est saisi de moi. J'avais l'impression, je vieillissais tout d'un coup parce que finalement, c'était la même honte que j'expérimentais il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, quand j'arrivais en 66, jeune étudiant américaine, venu à Paris pour trouver la vraie et bonne politique.
Parce que Les ombres de l'Amérique, Dick Howard, est un essai à la fois de philosophie politique et aussi d'histoire des idées, avec votre subjectivité imprimée entre ces lignes. Je vous présente à mes côtés Christophe Caron, rédacteur en chef de Slate.fr, la version française du Slate.com, qui nous offre depuis 2 ans presque un traitement assez critique de la présidence Trump. Bonjour Christophe Caron.
Bonjour.
Et vous êtes à mes côtés pour interroger Dick Howard, une première question.
Alors, vous avez parlé de cette soirée où vous êtes à Radio France et vous apprenez l'élection de Donald Trump. Dans votre livre, vous expliquez que vous comptez sur les institutions pour le contenir. En tout cas, vous pensez que les institutions pourront éviter qu'il fasse tout et n'importe quoi. Début septembre, le New York Times a publié donc cette tribune d'un proche de Trump qui explique que l'entourage est au courant que Trump est quelqu'un d'instable et qu'ils font tout pour l'empêcher de faire n'importe quoi. Et la question qu'on s'est posée, nous, chez Slate, c'était de se demander si tout ça était bien légitime. Si, en fait, le fait que des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui n'ont pas été élus par le peuple américain, puissent se mettre dans le champ de Donald Trump, qu'ils puissent se mettre un obstacle. Est-ce que, finalement, ça ne constitue pas pour vous un déni de démocratie. Est-ce que ça n'accrédite pas la thèse complotiste qui est chère à de nombreux républicains, de nombreux soutiens de Trump, du deep state, c'est-à-dire d'avoir un État caché qui contrôlerait le président et qui se mettrait en opposition avec les électeurs?
Oui, si... Revenons à la campagne de Trump. Revenons à la convention républicaine et son discours qui décrit une Amérique qui croupit sous la pauvreté, sous la désolation, etc., et qui crie « Il n'y a que moi qui puisse vous sauver ». Est-ce que c'est encore une démocratie? Qu'est-ce que c'est cette personnalisation? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si nous, c'est-à-dire des gens comme moi, portés plutôt vers la démocratie critique, si nous avons besoin de ces gens-là, on a un problème. Et puis troisièmement, qui sont ces gens-là qui cherchent, qui savent que Trump ne va pas rester et qui cherchent à sauvegarder leur réputation volens nolens. Là, j'ai pas beaucoup confiance dans ces gens-là. Et à la fin de mon livre, je parle de corruption. Et ce qui me frappe, et je ne lis pas Slate.fr, malheureusement, on peut pas tout lire, mais la corruption dont je parle, moi, c'est la corruption de la République. Ce sont des gens qui n'osent pas objecter de façon ouverte à ce qui se passe, et du coup, qui, par ce comportement, contribuent encore à la corruption de la République.
Qui devrait objecter? Parce que ce sont aussi les termes employés par les auteurs ou l'auteur anonyme de cette tribune parue dans le New York Times, qui disait « Le président continue d'agir au détriment de la santé de notre République ». Alors, quelle corruption républicaine vous voyez dans cette action?
Voilà, ça me fait revenir aux origines de la République américaine. Comme vous savez, en 1776, il y a la Déclaration de l'Indépendance. Nous tenons ces vérités pour évident que tous les hommes sont créés, hommes et femmes d'ailleurs, mais on ne le dit pas à l'époque, sont créés égaux. Mais il y a trois autres documents en langue anglaise publiés cette année, 1776, qui expliquent beaucoup de l'Amérique. Il y a « La richesse des nations » d'Adam Smith qui est publié cette année-là. Il y a l'opuscule de Bentham sur l'utilitarisme qui est publié en cette année-là. Et puis, la clé à tout ça, c'est aussi le premier volume de Gibbon, le déclin et chute de l'Empire romain. Et donc, l'Amérique est d'une certaine manière, je crois, dès sa naissance, hantée par cette idée de corruption qui perdrait, c'est-à-dire que les mœurs, comme on disait autrefois, mal, les mœurs mal se perdent, les gens se compromettent, on va soit vers l'utilitarisme à la Bentham, soit vers le capitalisme à la Adam Smith, et là-dedans, la Déclaration de l'Indépendance est perdue. Donc là, c'est un premier point. Pour revenir à l'actualité, je parlais donc de Déclaration des droits, je crois que ces 50 dernières années que je décrive dans ce livre peuvent être comprises comme une lutte autour d'une déclaration des droits, mais non pas celle de Jefferson, mais celle de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, en 1944, donc en pleine guerre, se présente pour un quatrième mandat, ce qui est inouï, ce qui n'a jamais été aux États-Unis. Et il fait un discours, c'est en janvier 1944, et il demande qu'on crée une deuxième déclaration des droits. Et quels seraient ces droits? Ce seraient les droits qu'on appelle sociaux, c'est-à-dire la santé, droit au travail, etc., etc. Et je crois que l'Amérique avait fait pas mal de progrès en cette direction. Et une partie de mon livre est un peu un balançoire. Il y a une partie où cette seconde déclaration semble être en voie de réalisation. Et puis il y a d'autres moments où justement ça recule. Et on peut se demander, si on parle maintenant de Trump et de cet homme ou femme qui a publié la tribune dans le New York Times, où est-ce qu'on en est?
Je vous propose d'écouter Donald Trump en réaction à cette tribune publiée dans le New York Times. Voici comment lui a interprété les mots de ses auteurs ou de son auteur et la manière dont il a peut-être aussi retourné la situation en sa faveur.
Le dernier acte de résistance en date, c'est la publication dans le déclinant New York Times par un anonyme. Vraiment un anonyme, un lâche, un dégonflé. Je veux dire, vous prenez le Washington Post ou le New York Times, vous n'avez jamais une bonne histoire. Je veux dire, regardez cette chose affreuse qui s'est passée aujourd'hui. Est-ce que c'est de la subversion? Est-ce que c'est de la trahison? C'est une chose affreuse. Mais vous savez, le bon côté, c'est que même les libéraux qui me détestent ont dit « c'est horrible ce qu'ils ont fait ».
Alors comment comprendre cette tribune et cette réaction du président Donald Trump? Dans Slate.fr, un article qui vient de paraître, l'édito du New York Times révèle un danger peut-être plus grand que Trump lui-même. Christophe Caron.
On peut se demander aussi si les médias, en particulier le Washington Post et le New York Times, en attaquant principalement Trump sur la forme, sur ce qu'il est, sur la manière dont il agit, et peut-être un peu moins sur le fond, en tout cas c'est ce que nous, on perçoit de France, quand il y a beaucoup ces attaques sur ce qu'il fait et sur ce qu'il est, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à justement renforcer, à mobiliser ses supporters?
Je crois qu'il y a deux choses en fait. Je crois que vous avez tout à fait raison, mais que j'avais raison au début de l'émission quand j'ai dit que dans toute démocratie, il y aura une opposition. Et donc, oui, ça va encourager cette opposition. En même temps, Trump réussit à monopoliser les unes de la presse, tous les médias, de sorte que on ne parle pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il laisse faire. Qu'on parle de l'environnement, qu'on parle de ce qui se trame chez les syndicats, etc., etc., etc. Tout ça disparaît parce que il monopolise notre attention. Donc, j'ai tendance à penser que effectivement, cette résistance dont il parle, est-ce qu'il s'agit d'une résistance d'un adversaire? Ou est-ce que c'est la résistance d'un ennemi? Car c'est un autre thème du bouquin, c'est que la politique américaine est passée de ces conflits adversariels à une guerre où on ne prend pas de prisonniers. Voir ce qui se passe autour de ce juge nommé à la Cour suprême, voir les supporters les plus fervents de Trump sont souvent ceux qui justement, et là c'est un exemple de la corruption aussi, ceux qui tiennent à lui parce que il va nommer des juges très, il dirait conservateur, je dirais réactionnaire, peu importe. Ce ne sont pas des juges qui sont des juges arbitres. Ce sont des juges partisans.
Il y a une guerre d'image, dit Coward. Il y a un rapport de force qui, depuis l'élection et même avant Donald Trump, s'est mis en place entre lui et le camp républicain et les médias. On pourrait retourner la question à Christophe Caron, qui est l'illustre représentant aujourd'hui de la version française de Slate.fr, qui aux États-Unis a aussi fait campagne contre Trump et continue à le faire aujourd'hui. Alors est-ce que les médias, effectivement, en attaquant Trump continuellement, ne remettent pas en cause d'abord sa légitimité populaire, la légitimité légitimité des urnes qu'il a acquises avec cette élection. Et est-ce qu'ils attaquent sur le bon angle? Est-ce que c'est pour vous la bonne posture médiatique à avoir?
Je pense que... Vous parlez de résistance, et on parle de résistance, mais je ne vois pas trop ce que cela veut dire si ce n'est justement insister sur le fait que il faut faire en sorte qu'il y ait une place pour des interventions politiques. Je crois que ce que on constate. Je vais m'exprimer peut-être autrement. Ce livre, en fait, je voulais écrire un livre qui se serait appelé The King à Obama. Ça aurait été une histoire progressiste de l'Amérique. L'élection de Trump me fait remettre en question ce progressisme. En quel sens maintenant? On avait tendance à comprendre le progrès comme sociologique et économique. Et on oubliait la dimension du politique. Et du coup, cet oubli du politique, donc de la dimension républicaine, si l'on veut, dans le sens classique, cet oubli a fini par nous coûter cher parce que on critique Trump, par exemple, non pas pour ce que j'appelle la corruption du politique, mais on le critique, par exemple, pour sa corruption vénielle, si l'on veut. Et c'est là où, justement, on a tendance à se perdre, me semble-t-il.
Christophe Caron.
Vous parliez justement de ce progressisme. On a vu effectivement que les États-Unis ont beaucoup avancé sur les droits des femmes, les droits civiques. Vous parlez de ces droits sociaux qui ont été initiés par Roosevelt. Et est-ce que finalement c'est pas le fait d'avoir laissé un peu tomber les droits sociaux au profit des droits civiques, des droits de ce progressisme sociétal, que finalement celui qui a élu Reagan et celui qui a élu plus tard Trump, l'ouvrier blanc, s'est senti finalement délaissé et a versé dans un vote populiste par deux fois. Et surtout voté pour des gens qui ne le représentent pas en plus. C'est-à-dire que autant Reagan que Trump ne représentent pas vraiment ses intérêts directs.
Attention. Les gens qui ne le représentent pas vous sociologisent.
C'est possible.
Vous avez tendance à dire, tiens, je surplombe, je survole et je vois les intérêts objectifs des uns et des autres.
C'est qu'objectivement, Reagan, avec sa politique libérale, ou Trump, qui est quand même un milliardaire plus proche des élites que du peuple, très typiquement, quand on regarde leur politique, visiblement, on n'a pas une politique qui s'adresse en premier lieu à l'ouvrier blanc, mais plutôt aux riches américains.
J'insiste sur cette distinction entre une pensée politique et une pensée sociologique. Il me semble qu'il est dangereux de réduire, de survoler et de penser au choix qui nous affronte, comme s'il s'agissait justement de nos intérêts. Intérêts privés, intérêts économiques, sociologiques, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec l'élection de Reagan? Je parlais de King à Obama, mais entre-temps, il y avait le progrès mettant de King jusqu'à Reagan, en effet. Et pourquoi la fameuse classe ouvrière blanche a-t-elle déserté le parti? Déserté. Comme si on était un général en guerre. Moi, on a tous tendance à penser en termes guerriers, parfois. Mais toujours est-il que pourquoi cette classe ouvrière blanche s'est trouvée du côté de Reagan? Je crois que c'était le ressentiment qui est le mot-clé. Et j'explique ce ressentiment de la manière suivante. J'ai dit que j'ai commencé à écrire mon livre sous le choc de Charlottesville, sur l'apparition du pouvoir blanc, etc., etc. Et je pensais que j'allais chercher, que j'allais trouver des filons racistes que je découvrirais, etc. Et en effet, j'en parle assez longuement dans le premier chapitre du livre de ce qui s'est passé dans la foulée de la guerre de sécession, etc. Mais en fait, c'est pas tant le racisme, c'est plutôt justement cette classe ouvrière blanche. Quand est-ce qu'elle tourne à Reagan? En 79, donc juste avant l'élection de 80, on est victime aux États-Unis de ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire les salaires réels stagnent, il y a une inflation qui monte et les ouvriers qui étaient représentés par des syndicats et qui étaient encore dans les classes moyennes entre guillemets, ces gens-là ont l'impression que leurs impôts sont utilisés pour soutenir Reagan parlait de welfare queens, n'est-ce pas, et surtout c'est utilisé pour le bien de des noirs, des autres. Et donc se conçoit le ressentiment. Et si je prends ce que je disais sur la politique des adversaires et la politique des ennemis, quand j'ai du ressentiment pour l'autre, je ne vais pas m'arranger à faire des compromis politiques avec lui. Quand j'ai du ressentiment, ça veut dire que c'est un être qui ne mérite pas mon attention, mon intelligence, ma raison.
Invité de la grande table des idées aujourd'hui, le philosophe américain Dick Howard pour son essai Les ombres de l'Amérique qui paraît aux éditions François Bourin. France Culture, il est 13h, presque 20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et votre livre, dit Coward, on l'évoquait, est aussi une histoire des idées. Vous montrez comment, petit à petit, il y a eu un glissement dans la culture politique dominante ou majoritaire, d'un libéralisme à un néolibéralisme jusqu'à un conservatisme, en repartant des événements de Charlottesville et de ce qu'ils ont, à vos yeux, aussi révélé. Je vous propose, pour ouvrir cette deuxième partie de notre discussion, d'écouter les mots de l'essayiste américain Thomas Frank. Il est un fin observateur de la société américaine contemporaine et l'auteur notamment de « Pourquoi les pauvres votent à droite », c'était il y a 10 ans, et plus récemment de « Pourquoi les riches votent à gauche », paru aux éditions Agoun.
Le Parti démocrate, traditionnellement aux États-Unis, a toujours haï Wall Street. En revenant aux jours de Thomas Jefferson, le Parti démocrate hait les banquiers. Il y a une haine des banquiers. Mais sous Bill Clinton, ça a commencé à changer. Et le Parti démocrate a commencé à s'identifier à Wall Street et aux banquiers. Et avec Barack Obama, vraiment, ça a pris une ampleur extraordinaire. Son administration était pleine de banquiers. Ils ont refusé de poursuivre les banquiers. Pourquoi ça s'est produit? Le Parti démocrate a décidé, à un moment des années 70, des années 80, qu'il ne voulait pas être le parti des travailleurs. Il ne voulait plus être le parti des travailleurs. Il voulait être le parti des cols blancs, de la classe professionnelle, comme on dit aux États-Unis. Très éduqués, très cultivés, des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Les 10% les plus riches aux États-Unis. Le Parti démocrate a décidé que c'était avec eux qu'il voulait s'identifier. À eux qu'il voulait s'identifier, d'être les gagnants. Être gentil avec Wall Street faisait partie de cette stratégie. S'identifier à Hollywood faisait partie de cette stratégie. De la vallée de la Silicon Valley, ça faisait partie de cette stratégie. Mais voilà ce qui reste de la gauche aux États-Unis. C'est le parti des gens les plus éduqués, très riches, des professionnels.
avec cette évolution, dit Coward, de la démocratie républicaine aux États-Unis. Vous montrez bien ces deux caractéristiques, la montée du ressentiment des ouvriers blancs et l'essor de la droite religieuse. Clinton est quand même apparu aussi comme la papesse de la mondialisation et de la financiarisation. Mais est-ce que vous ne minimisez pas un peu trop ce point que vient de souligner Thomas Frank? Est-ce que le parti républicain et surtout Donald Trump n'ont pas surtout bénéficié de l'abandon des classes populaires par le parti démocrate, mais aussi par les élites et les intellectuels démocrates?
Qu'est-ce que c'est ces fameuses classes populaires? On savait ce que c'était la classe ouvrière quand il y avait la grande industrie. Cette classe ouvrière-là n'existe guère aujourd'hui. Ce qui me gêne, en fait, je me permets de revenir au début de notre conversation, et je vous propose une autre distinction. Il y a d'une part la vision politique de la Révolution française qui visait, qui prend le pouvoir en 89 et se sert du pouvoir pour transformer la société, pour égaliser les rapports, pour en finir avec les distinctions de statut, etc. Vous avez, vers la même époque, la Révolution américaine. Et celle-ci vise à créer une démocratie républicaine, pas une république démocratique. La république démocratique, c'est le modèle français, c'est le modèle soviétique, si l'on veut, c'est-à-dire, encore une fois, égaliser tout. La vision américaine, au contraire, veut une démocratie qui est garantie par les formes politiques républicaines. Les Thomas Frank et autres progressistes, mes camarades, vous voyez que je fais des petits des guillemets, je me considère toujours de gauche, mais je suis tout de même formé en grande partie par l'antitotalitarisme à la française, pour laquelle justement c'est la démocratie républicaine qui est radicale. Et donc, quand on me demande qui est-ce que je soutiens, pourquoi je soutiens telle ou telle chose, ce n'est pas parce que j'ai de la pitié, je veux prendre en considération les intérêts de tel ou tel groupe sociologique. C'est au contraire parce que je veux tout faire pour que cette démocratie reste vivante.
Christophe Caron.
J'avais une question plus politique, plus d'actualité. Quand on voit le bilan de Donald Trump en matière économique, qui est plutôt bon en termes de croissance, en termes d'emploi, en termes de bourse, Wall Street se porte plutôt bien. Quand on voit les sondages, alors il est à 60% de gens qui estiment que son bilan est négatif. C'est à peu près ce que vit Macron en France actuellement. Donc c'est un sondage finalement qui dit pas grand-chose. Quand on voit que les démocrates présente en termes de candidats beaucoup de femmes, beaucoup de personnes de couleur et mettre pour la première fois les hommes blancs en minorité, ce qui est une intention très louable, une discrimination positive qu'on peut pour certains saluer. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, pour ces élections de mi-mandat qui arrivent le 6 novembre?
Oui, je suis optimiste, mais non pas tant pour des raisons sociologiques, encore une fois, mais parce que ça fait revivre la démocratie, que les femmes entrent en jeu, que les jeunes s'activent. Ça veut dire justement que la démocratie reprend elle-même vie. Et c'est ça finalement que les Donald Trump, d'une part, mais d'autre part, ce que les Hillary Clinton ont empêcher ou en contribuer à affaiblir. Par ailleurs, comme je parle de Hillary Clinton, j'attends que la prochaine question que vous posiez, ça ce serait la question des Bernie Sanders et tout ça, et je réponds d'avance. J'ai ce livre que je viens de publier. Je suis en train de terminer un autre qui justement est une reprise d'un livre que j'ai publié en 1977, qui s'appelait The Marxian Legacy, donc l'héritage marxien. J'ai republié ce livre, donc j'ai publié en 77 au moment où il y avait un mouvement contre la guerre au Vietnam, etc. 10 ans plus tard, j'ai fait une nouvelle édition en 88 au moment où il y avait des nouveaux mouvements sociaux à l'Occident et il y avait Solidar Noche et la société civile en Europe de l'Est.
Et là, vous actez le retour de Marx?
Et exactement. Je reprends ce livre, je l'ai réécrit pour la clarté surtout, j'ai ajouté certaines choses, mais il me semble que les Bernie, pour parler comme ça, représentent un espoir pour la démocratie, mais que leur socialisme, entre guillemets, mériterait d'être repensé et qui mériterait de méditer un peu plus la pensée politique de Marx et des marxistes non dogmatiques.
Et ça serait le seul Bernie Sanders pour vous chez les démocrates qui serait capable de canaliser ce ressentiment que vous avez diagnostiqué. Et est-ce qu'il y a d'autres candidats qui sont capables de le faire vu d'ici? Nous, on a du mal à les voir. Mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables dans le camp démocrate de gérer ça?
Je viens du mouvement des années 60. Je viens de ce qu'on appelait une nouvelle gauche. Et je crois toujours à cette idée d'une nouvelle gauche. Et celle-ci, justement, naît peu à peu au niveau local et régional. On peut se servir de figures pour apporter une certaine unité à ce mouvement, mais je crois qu'il faut que ça vienne de la base, et en l'occurrence, la base universitaire est un bon endroit pour commencer.
Et si, Dick Howard, ces élections à mi-mandat, dans un mois et demi, avec en jeu la majorité à la Chambre des représentants, et si on se trompait encore, et si ces élections tournaient au plébiscite pro-Trump, vous dites quoi?
J'ai la double nationalité.
D'accord. Vous viendrez peut-être un peu plus souvent à Paris que vous le faites déjà aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Dick Howard. Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump. Votre nouvel essai vient de paraître aux éditions François Bourin. Merci d'être passé autour de cette grande table et un grand merci à toute l'équipe qui l'a préparé et programmé cette semaine encore. Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la culture, Maya Neskovic et Laura Dutèche pour les idées, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. Réalisation Anne Despolchin avec Jacques Hubert. Merci à vous Christophe Caron. On se retournera très vite après l'émission sur les pages de slate.fr pour y suivre votre traitement d'ores et déjà fait et à venir de la campagne des midterms américaines. Rendez-vous lundi avec le metteur en scène Christiane Moupa et Jean-François Bronstein pour son essai La philosophie devenue folle.